vieux bourri fort.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous.
Bonjour Mireille, bonjour à tous et à toutes.
Oui, à toutes.
Ou le contraire.
Oui, voilà. Oh, mélange des genres.
Soyons prudents.
Alors aujourd'hui, on va. Je vais baisser un peu la musique. On va vous parler de Russell Banks. Alors, Russell Banks, il est né le 28 mars 1940, donc c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, à Newton, donc dans l'état du Massachusetts. Et il est décédé le 7 janvier 2023 à Saratoga Springs, dans l'état de New York. Alors, c'est un écrivain progressiste américain et son œuvre est traduite quand même en près de 20 langues.
Oui, donc une grande reconnaissance.
Voilà. Alors, donc, oui, tu voulais ajouter...
Non, c'est tout, j'ai fait un geste, mais qui consistait à vouloir ajuster mon micro.
Ah bon, excuse-moi, j'ai cru
qui aurait pu passer
pour... Je voulais prendre la parole.
Ça va pas tarder.
Alors, c'est le fils d'un plombier qui avait quitté le domicile familial lorsqu'il avait 12 ans. Et Russell Banks a passé son enfance dans le New Hampshire, dans un milieu extrêmement modeste. Alors, après des études inachevées à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, il voyage, passe même quelques temps en Jamaïque. Et donc, il écrit des romans, des nouvelles et aussi de la poésie. Il enseigne ensuite la littérature contemporaine à l'Université de Princeton.
Oui, un sacré parcours, parce que tu as bien dit qu'il était fils de plombier. Le plombier en question est parti, tu viens de le dire, alors qu'il était encore enfant. C'était l'aîné de la famille. Bon, il a eu un parcours très difficile et il a été plombier lui-même, avant de se dire que peut-être s'il essayait d'écrire, voilà, ça serait peut-être pas mal, mais c'est quand même des parcours incroyables.
Donc, je vous propose tout d'abord un extrait d'un livre qui s'intitule « Lointain souvenir de la peau ». Et donc, le résumé du livre, qui est assez pessimiste quand même. Hein.
Eh oui.
Donc, à l'instar de ses pareils, hommes de tous âges et de toutes conditions, que leur addiction au sexe a conduit devant les tribunaux, puis relégué loin des zones sensibles, le kid, 21 ans, bracelet électronique à la cheville, vit sous un viaduc de Floride. Et depuis toujours livré à lui-même, il n'a pour ami qu'un iguane, bizarre cadeau offert par une mère passablement nymphomane.
Oui, un iguane de la taille d'un petit crocodile. Hein. C'est un iguane âgé.
Voilà.
Qui est avec lui. Et il est arrêté pour avoir voulu coucher avec une jeune fille mineure rencontrée sur Internet. Et aux États-Unis, ça rigole pas trop, ces affaires-là. Voilà. Donc il se retrouve avec les gens qui sont qui vivent dans la rue.
Et donc, bien sûr, il va être stigmatisé par une société devenue jusqu'à l'hystérie adepte du surveiller et punir. Et donc, ce jeune homme en rupture va susciter l'intérêt d'un certain professeur, universitaire à la curiosité dévorante, sociologue atypique, qui, dans le cadre de ses travaux sur les sans-abri, approche le kid et le prend peu à peu sous son aile. Mais il apparaît bientôt que le génial professeur pourrait être un fabuleux menteur et un expert en identité multiple.
Voilà, il y a des rebondissements.
Voilà. Alors, en fait, là, les extraits choisis, c'est... on avait fait une émission il y a quelques temps sur les phénomènes météorologiques. Et donc, c'était sur la tempête. Et donc là, évidemment, dans le sud des États-Unis, enfin, il y a beaucoup d'ouragans et tout ça. Et donc là, les deux... comment sont pris dans un ouragan alors qu'ils sont en voiture. Voilà.
Alors, donc c'est un roman de 2012 paru chez Actes Sud, Lointain souvenir de la peau.
Voilà. Alors, je vous propose d'écouter l'extrait.
À l'endroit de la côte du Golfe, où le marais de Panzacola se fond dans la mer, la vieille autoroute rejoint l'autoroute à péage du Golfe qui, elle, file vers le nord. La pluie portée par le vent fouette à présent le monospace du côté gauche et le professeur doit lutter avec le volant pour maintenir le véhicule sur sa voie. Ici, des banlieues et des villes se succèdent le long de la route. Il faut être attentif aux croisements en trèfle, aux ponts autoroutiers et aux accès à l'autoroute. Puis il arrive à une immense aire de service où il fait de nouveau le plein d'essence et avale un repas de plus. Ensuite, peinant à avancer sous la pluie battante, il regagne le monospace et reprend sa route le long de la côte de la péninsule. Malgré leurs rapides allers-retours, les balais des essuie-glaces n'arrivent pas à chasser une pluie aussi drue et la visibilité est mauvaise. Par deux fois, il n'évite que de peu des véhicules qui roulent lentement devant lui, et à plusieurs reprises, comme s'il était ivre, il perd de vue la ligne blanche qui sépare les voies et doit ralentir au point de presque s'arrêter avant de la retrouver. Son cœur bat très fort, mais soudain lui vient l'idée de mettre un peu de musique. Et oui, bon sang, un peu de musique. Ça le calmera, pense-t-il, ça lui permettra de se concentrer et de réorganiser son esprit, son outil le plus puissant, son arme contre le monde. La panique est passée. La musique, comme elle l'a toujours fait, l'aide à séparer son esprit de son corps. Chez la plupart des gens, Elle produit l'effet inverse, surtout chez ceux qui, comme le professeur, écoutent du jazz américain classique. Le jazz est l'un des rares domaines qu'il n'explique pas aux autres. Il est tout disposé à disserter sur la musique européenne classique, depuis le baroque jusqu'au sérialisme postmoderne ou sur le disco, le funk, le raga ou le reggae. Mais le jazz est pour lui comme une drogue secrète. Seul, le jazz a le pouvoir de modifier suffisamment les ondes de son cerveau et ses neurotransmetteurs pour qu'il se sente autonome, immunisé contre la contamination de son corps, qui lui est pratiquement impossible de mettre à distance autrement. Le vent s'oriente graduellement vers le nord et la pluie s'est intensifiée. L'aube pointe quand le professeur franchit la frontière d'État de l'Alabama et il se rend enfin compte que cette tempête qui vient du Golfe est un ouragan et que depuis plusieurs heures, il roule en plein dedans. Il se souvient d'une info lue un peu plus tôt dans la bande de défilement de CNN sur les écrans de télé de l'aire de service de l'autoroute et aussi d'un gros titre entrevu dans le journal du matin qu'il n'a pas pris la peine de ramasser quand il est sorti de chez lui hier matin pour aller retrouver le kid sous le viaduc. L'ouragan, George, voilà le nom qu'ils lui ont donné, un cyclone de taille moyenne, supposé passer sur la moitié nord de l'État et sur la moitié sud de l'Alabama et de la Géorgie, avant de poursuivre son mouvement giratoire jusqu'à l'Atlantique où il faiblira et se dispersera. Rien d'extraordinaire, mais un ouragan tout de même, avec de grands vents et une pluie torrentielle et tourbillonnante qu'il est dangereux de traverser dans un monospace de la taille du sien, ou dans tout véhicule plus léger qu'un camion à 16 roues, surtout quand on remonte la côte du Golfe vers l'Alabama comme il le fait. Les palmiers aussi, comme de grandes plumes, et les palmettos fouettent le sol. De temps à autre, les phares du monospace ou ceux de véhicules arrivant en sens inverse illuminent des fossés et des canaux qui débordent le long de la route. Des gerbes d'eau en éventail jaillissent des épaisses nappes liquides que le monospace franchit lourdement. À présent, il roule beaucoup moins vite et prend du retard. Il comptait arriver de bonne heure à la résidence. Les habitants de Calusa sont habitués aux ouragans en cette saison et la plupart des résidents vivant réellement là auront obéi aux directives détaillées données par la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences. La veille de l'arrivée de la tempête, ils auront renforcé leur maison autant qu'ils le peuvent, en débarrassant les terrasses et les patios des jouets et du mobilier de plein air. Ceux qui possèdent un bateau l'auront attaché solidement à des pilotis ou l'auront mis en cale sèche et tous auront rentré leurs antennes paraboliques et rangé leurs vélos et leurs conteneurs à poubelle dans le garage. Ils auront rechargé leur téléphone et leur télévision portable et ils auront mis des piles neuves dans leur poste de radio. Ils seront allés au distributeur automatique de billets le plus proche et auront retiré tout l'argent autorisé par la banque. Ils auront fait le plein d'essence, fermé les volets, coller du ruban adhésif sur les fenêtres, surtout celles qui offrent une belle vue sur la mer ou sur la baie, et parfois les auront doublés d'un panneau de contreplaqué d'1,5 cm d'épaisseur. Ils auront composé le kit familial de survie préconisé par la FEMA sur son site « Êtes-vous prêt ?» Eau en bouteille, nourriture en conserve ou empaquetée de manière durable, ouvre-boîte mécanique, vêtements de rechange, équipements de pluie et chaussures solides, matériel de couchage, trousse de premiers soins et tout médicament faisant l'objet d'une ordonnance, paire de lunettes supplémentaires, poste de radio à pile, lampe électrique, pile de rechange, double de clé de voiture, numéro de téléphone des médecins de la famille, fourniture particulière pour les enfants en bas âge et les personnes âgées. Une facture d'eau, de gaz ou d'électricité prouvant leur lieu de résidence. Ils auront un plan d'évacuation, surtout s'ils vivent dans les îles barrières ou juste au bord de la baie. Nombreux seront les propriétaires d'animaux qui auront préparé un nécessaire de survie pour leurs animaux de compagnie, à savoir 2 semaines de nourriture, bol, eau, cages de transport, colliers, étiquettes, laisses, litières et caisses à litière pour les chats, papier absorbant, sachets en plastique et désinfectant des mains pour les propriétaires de chiens. Quand ils évacueront leur maison, ils prendront avec eux la cage où logent leurs oiseaux et, dans des caisses fermées où ils auront percé des trous pour laisser passer l'air, ils porteront leurs hamsters, leurs serpents, leurs tortues, leurs lézards, leurs furets et leurs tarentules. Grâce au système officiel d'alerte au cyclone, ils auront eu assez de temps pour se préparer à la tempête et quand l'ouragan finira par s'abattre sur leur ville, ils se glisseront simplement dessous, attendront qu'ils passent et partent sur la mer. Les hommes qui résident sous le viaduc Claiborne, cependant, n'ont pas été avertis du cyclone qui s'approche. Et même s'ils l'avaient été, ils ne seraient pas en mesure de se préparer. Certes, ils ont su qu'il était en route. D'aucuns en ont entendu parler à la radio. D'autres, peu nombreux, en ont lu quelques mots dans les journaux qu'ils ont ramassés dans des bennes à ordures ou dans des poubelles. Ou bien ils ont remarqué les préparatifs dans toute la ville. Ils ont vu les jardiniers et les hommes d'entretien des hôtels et des immeubles d'appartements couper des noix de coco qui pendaient à faible hauteur et que le vent qui se levait risquait de projeter dans les airs comme des boulets de canon. Ils savent pour la plupart que la tempête est proche. Peut-être arrivera-t-elle aujourd'hui, peut-être même dans 5 ou 10 minutes, mais quand vous n'avez pas les moyens de suivre les consignes d'urgence que la ville, le comté, l'État et les agences fédérales donnent aux citoyens par la radio, télé, presse et internet, quand de fait vous n'appartenez pas à la classe des citoyens, vous avez tendance à négliger les avertissements au point de n'être tout simplement plus conscient de quelque situation d'urgence que ce soit. Pour vous, puisque vous ne pouvez rien faire pour vous en protéger, il n'y a pas d'urgence. Et donc, les hommes qui vivent sous le viaduc vaquent à leurs occupations habituelles, comme si aucun ouragan n'allait s'abattre sur eux.
Ben voilà, il y en a qui ne sont pas prévenus.
Voilà.
C'est ça le problème.
Hein ? Et donc, alors dans cette fiction magistrale hein, qui met en scène donc l'enfer de la déviance et le supplice de l'exclusion, Russell Banks va stigmatiser l'aveuglement hein, de nos sociétés saturées d'images qui semblent vouloir faire disparaître jusqu'à la pathologie leur corps collectif dans le rayonnement des écrans de la nuit sexuelle.
Oui, parce que là, ce fameux kid, là, il a un job de plongeur dans un restaurant, mais il a une interdiction formelle de vivre auprès des enfants. Et aux USA, c'est comme ça, hein. Il y a même des fichiers publics. Donc en gros, tu as ton nom
qui
paraît. Hein. Donc il se retrouve avec cette communauté de SDF sous les viaducs. Et là, je voulais faire une petite citation de Russell Banks qui, à ce propos, écrivait « Quand une société réifie ses enfants en les transformant en un groupe de consommateurs, quand elle les déshumanise en les convertissant en un secteur économique crucial fermé sur lui-même, quand elle érotise ensuite ses produits pour les vendre, les enfants en viennent à être perçus comme des objets sexuels par le reste de la communauté, mais aussi par eux-mêmes. » Donc on voit bien hein, c'est une espèce de filière là, de infernale qui se crée avec tous ces réseaux sociaux de tout poil, si j'ose dire.
Alors, dans le sillage de Herman Melville, Mark Twain ou encore de Jack Kerouac, l'écrivain met en scène des personnages qui sont issus de l'Amérique profonde, survivant de force à force de combines hein, et de petits boulots. Alors, ces récits éclatés, où se multiplient les voies narratives, hein, s'inspirant des recherches expérimentales des années 30, comme avec William Faulkner ou John Dos Passos, accordent une large place aux confrontations raciales.
Ah oui, il s'est beaucoup impliqué là-dessus, Russell Banks. Hein. Et moi, il me fait penser aussi à un écrivain sur lequel on avait fait une émission, Raymond Carver.
Oui.
Parce qu'ils sont un peu issus du même milieu, ils se sont un peu battus contre la ségrégation, alors qu'ils se sont des blancs. Donc à l'époque, c'était pas si évident. Et puis, je renvoie à l'émission numéro 11 de septembre 2019. C'est pas tout jeune.
Ah
hein. On peut l'écouter en podcast, hein, donc Raymond Carver.
Alors son premier roman, à Russell Banks, Family Life, est publié en 75. Il a écrit une vingtaine de livres et à partir de 1998, il est membre de l'Académie américaine des arts et des lettres. Ses écrits sont parcourus de deux grands thèmes, donc la recherche de la figure paternelle et la description du monde des petites gens croulant sous le poids d'une vie quotidienne dure et pauvre, ou de la tragédie aussi. Alors c'est vrai que j'en ai lu plusieurs, hein, livre de Russell Banks. Bon, il faut avoir le moral quand même avant de. Voilà,
c'est
parce
quand même
que
pas
c'est,
tout blanc.
C'est un peu plombant. Hein,
voilà. Étincelant, c'est la noirceur quand même.
Alors, et il était très actif hein, politiquement, n'hésitant pas à critiquer ouvertement son gouvernement. Il a même pris position hein, contre l'intervention en Irak, contre le Patriot Act et pour Bernie Sanders. Et en février, et de février 98 jusqu'en 2004, il succède à Wole Soyinka en devenant le troisième président du Parlement international des écrivains créé par Salman Rushdie. Il a été le président fondateur de City of Refuge North America, qui s'est donné pour mission d'établir aux États-Unis des lieux d'asile pour des écrivains menacés ou en exil. Et il a été membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine, dont les travaux ont commencé le 4 mars 2009. Il était l'ami hein, de l'écrivain Jim Harrison. Et avec celui-ci, il participe au documentaire « Amérique, notre histoire » en commentant les images sur l'histoire américaine.
Oui, donc je ne savais pas qu'il y avait eu un Parlement international des écrivains, comme tu viens de le dire, qui a été dissous en 2004, mais pour faire suite, et tu l'as dit aussi, au City of Refuge North America. En fait, c'est un réseau international de villes-refuges où les écrivains qui sont menacés par le pouvoir en place ou par diverses, souvent par des questions politiques, peuvent trouver refuge. C'est un réseau international
qui existe, à l'abri, quoi.
Voilà, qui existe toujours.
Donc je vous propose maintenant d'écouter une nouvelle. Alors il n'a pas écrit beaucoup de nouvelles, il a écrit deux recueils de nouvelles, je crois. Et donc sinon c'est des romans, des grands pavés là de 800, 900 pages. Et donc la nouvelle que je vous propose, elle s'intitule « Un membre permanent de la famille » qui est paru en 2015 en France.
Je ne suis pas sûr d'avoir envie de raconter cette histoire qui parle de moi, en tout cas pas maintenant, environ 35 ans après les faits. Mais elle s'est transformée plus ou moins en légende familiale, par conséquent, elle a été fortement révisée, et en outre, si je peux me permettre de le dire, dans la mesure où je ne suis pas seulement un témoin, mais aussi l'auteur présumé du crime, très déformée. Elle a été colportée par des gens qui n'ont pratiquement rien à voir avec elle, et l'ont apprise par une de mes filles, ou par mon gendre, voire par ma petite fille, lesquels sont tous très contents de la raconter, parce qu'elle fait apparaître le vieux, c'est-à-dire moi, sous un jour peu glorieux. Il semblerait que rabaisser le vieux soit encore une source de plaisir, et pas seulement pour ceux qui le connaissent personnellement. Ma principale envie ici, c'est de mettre les choses au clair, même si cela peut donner de moi une image vaguement négative. Moins de mon caractère, d'ailleurs, que de ma capacité à prévoir les ennuis et donc de la capacité dont j'ai fait preuve à protéger mes enfants quand ils étaient très jeunes. Je cherche aussi à rapatrier cette histoire, à la récupérer, à la rendre de nouveau mienne. Si cela semble égoïste de ma part, n'oubliez pas que pendant 35 ans, elle a appartenu à tous les autres. C'était l'hiver, après l'été, où je me suis séparé de Louise, la femme qui, pendant 14 années agitée, avait été mon épouse. Les choses se sont déroulées dans un village médiocrement pittoresque du New Hampshire, méridional, où j'enseignais la littérature dans une petite université spécialisée dans les arts et les lettres. Le divorce n'avait pas encore été prononcé, mais la séparation était consommée, désormais un fait irréversible, non seulement de ma vie et de celle de Louise, mais aussi de la vie de nos trois filles, Andrea, Caitlin et Sacha, alors âgées de 6, 9 et 13 ans. Vicky, mon aînée issue de mon premier mariage, avait 18 ans et habitait avec moi après s'être enfuie de chez sa mère et son beau-père qui, eux, vivaient en Caroline du Nord. Elle était inscrite en première année à l'université où j'enseignais et elle logeait temporairement dans un studio que j'avais fait construire pour elle au-dessus du garage. Nous étions tous des atomes provenant de la fission de familles nucléaires et nous cherchions de nouveaux noyaux à recomposer. J'avais quitté Louise en août et acheté à 400 mètres de chez elle une petite maison abandonnée, dotée d'un garage en appentis, qui ressemblait à un pavillon de gardien et me donnait la sensation de vivre dans une loge annonçant la demeure bien plus vaste et fort bien entretenue de Louise, à savoir un presbytère de style victorien situé, lui, sur la colline. Après mon départ, la vie mondaine de Louise, vie toujours plus intense et plus ouverte que la mienne, s'était poursuivie au même rythme et s'était même accélérée, comme si pendant des années, ma présence avait eu un effet rabat-joie. Le week-end surtout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des voitures roulaient bruyamment dans les deux sens sur le chemin de terre entre mon pavillon et sa maison. Je reconnaissais certaines de ces voitures. Elles appartenaient à des amis que nous avions eus en commun. D'autres, nouvelles pour moi, portaient des plaques de différents états. Nous étions financièrement indépendants l'un de l'autre. Elle, grâce à un important fidéicommis établi par ses grands-parents, moi en vertu de ma position d'enseignant. Nos avocats n'avaient donc pas à se battre pour ou contre une pension alimentaire. Comme notre unique bien commun de conséquence était ce presbytère victorien plutôt grandiose et qu'il avait été acquis grâce à l'argent venu de sa famille, j'avais signé sans discuter le papier qui lui a rétrocédé ma moitié. Cette maison